With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous. Le temps que la saison de tennis reprenne, on vous propose une nouvelle émission dans laquelle je vais discuter avec des acteurs majeurs du tennis. L'émission est diffusée en intégralité sur toutes les plateformes de podcast. Les meilleurs passages sont diffusés sous forme de séquences vidéo sur le site eurosport.fr. Notre premier invité, Gilles Simon. Salut.
Salut Arnaud.
Alors, Gilles, je sais que tu as l'habitude de dire ce que tu penses, d'ailleurs, et ça tombe très bien, voilà, sans langue de bois. Quelques sujets à traiter. On reviendra sur ton parcours, ton palmarès, un petit peu plus tard. Mais pour commencer, comment tu vas? Comment tu as vécu ce confinement à 35 ans, avec une vie de famille, éloignée donc des cours peut-être? D'ailleurs, voilà, comment ça s'est passé de ton côté, tout simplement? Comment tu vas?
Très bien. Très, très bien. Un peu trop bien même, peut-être. Je fais beaucoup d'années sur le circuit. J'ai toujours beaucoup joué. Non, j'étais bien. J'étais bien là, sans... j'étais bien en repos et sans tennis. Et surtout avec... la conscience tranquille, tu sais, de te reposer sans qu'il y ait de tournoi, sans te dire que tu dois aller t'entraîner, sans te dire que voilà, ça a été quelque chose de très particulier, mais que j'ai très bien vécu.
T'as pas pris ça comme quelque chose de stressant, avec l'inquiétude de ne pas savoir quand la reprise aurait lieu? Tu t'es pas posé toutes ces questions? T'as plus pris le truc comme justement je me pose et je me repose et ça me fait du bien?
Oui, mais ce que je te disais, c'est ce qui est difficile en général, c'est quand tu te poses, tu le fais rarement avec la conscience tranquille. Soit en fait, quand tu te poses, c'est que tu es blessé.
Ouais.
Donc, tu vois les autres qui jouent, tu as les boules. Soit quand tu te dis, je me repose, bah, tu sais que tu devrais t'entraîner. Enfin, la seule pause, c'est la pause hivernale, en dehors des blessures. Et bon, bah, faut s'entraîner, faut machin. C'est rare les moments où tu peux vraiment rien faire. Tu sais, un repos bien mérité qui rentre, on va dire, dans ton programme. Tu as ta semaine de vacances, des semaines de vacances dans l'année, tu en as deux quasiment au maximum, et tu sais que derrière, il faut travailler tout de suite pour être prêt, pour rejouer, etc. C'est lié quand même à notre sport. Donc là, finalement, quand tu as une pause comme ça, un peu forcée, puis tu te dis, mais non, mais je vais reprendre super tard, donc ça n'a aucun sens d'aller m'entraîner à mon âge 5 heures par jour, tu vois, à 35 ans. Du coup, tu fais beaucoup moins. Là, tu vois, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'on a encore 2 mois jusqu'à la reprise, en tout cas officielle. Et tu dis, bah là, j'ai encore le temps de m'entraîner. Donc, pendant 2 mois, j'ai pu simplement être à la maison, profiter de ma femme, mes enfants, etc. Comme tu dis, vie de famille, dans un contexte particulier. Mais en tout cas, d'avoir le temps d'être là. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu, finalement, de toute ma vie. Et donc, ça a été fabuleux pour moi.
Mais tu t'es quand même entretenu un petit peu physiquement. Tu as pu faire des choses ou tu as vraiment coupé?
Non, pas tant que ça. J'ai vraiment pas fait énorme. Après, bon, c'est chacun fait comme il sent. Moi, j'estime que en 2 mois, j'ai de quoi me remettre en forme doucement. Donc, c'est un peu une limite que je m'étais mise dans la tête. Donc voilà, j'attendais les annonces de l'ATP, de savoir jusqu'à quand. Enfin, voilà, quand ça s'est repoussé, repoussé, etc. Là, c'est le 31 juillet. Donc là, je commence à m'y remettre et tout va bien en fait, parce que à mon âge, il y a aussi beaucoup de douleurs à faire passer. Et ben finalement, certaines douleurs là ont complètement disparu. Alors on verra quand je vais reprendre. Je vais pas te parler des problèmes de dos, d'avoir rien fait finalement. Bah il y a pas une nuit où je me bloque le dos, il y a pas une nuit où j'ai mal à la nuque, j'ai pas. Enfin voilà, toutes ces choses-là sont en train de passer. Ça fait aussi beaucoup de bien. J'ai juste l'impression que c'est très différent à chaque âge. D'extérieur, je me suis dit que le meilleur âge, ça devrait être d'être à 25 ans ou 26 ans quand ça t'arrive. Quand t'es déjà arrivé sur le circuit, que tu t'es déjà confronté à certaines limites, si tu veux, dans ton jeu, et que tu peux profiter de cette période-là pour t'entraîner beaucoup, régler des choses sur le terrain, parce que tu as encore le corps qui te permet de t'entraîner des heures et des heures, et voilà. Et je pense que c'est la période, c'est l'âge le plus facile à gérer. Je pense que quand tu es jeune, comme tu dis, bon, bah, de toute façon, tu vas faire des heures, tu t'entraînes. Tu fais ça depuis un moment, puisque voilà, tu te rappelles, quand tu avais 20 ans, tu t'entraînais, ça allait le lendemain, quoi. Et ainsi de suite. Et à notre âge, bah, tu te connais mieux, mais par contre, tu as quand même les contraintes de ton corps, comme tu dis. Il y a un équilibre à trouver pour moi entre ces douleurs que je dois faire passer depuis un moment avec lesquelles je compose, mais quand même s'entretenir pour sentir que, voilà, moi, je sens bien que je ne pouvais plus m'arrêter en fin de carrière. Je m'arrêtais une semaine, j'ai l'impression qu'il fallait 3 semaines pour être en forme. Donc là, forcément, 2 mois où tu lèves le pied, bah, ça fait un peu peur, quoi. Ce qui est rassurant, c'est que j'ai encore quand même 2 mois pour me remettre en forme. Et je me dis aussi, c'est long.
Bon, donc tout va bien. Je crois que tu as comme surnom, je ne sais pas qui t'a surnommé comme ça, le prof.
C'est Nico.
Nico Mahut. Tu t'es reconverti en prof avec tes enfants là pendant le confinement?
Ouais.
Ouais. Bah, écoute, t'as pu les encadrer jusqu'au bout, t'as réussi à rester patient et calme?
Dans l'ensemble, je suis très patient quand même. Calme, pas forcément, mais je suis très patient. Et c'est d'ailleurs pour ça que je peux m'énerver, ça, je crois que tout le monde le sait. Sur le terrain, je suis un petit peu moins patient, mais dans la vie, je suis très, très, très patient. Donc, il en faut beaucoup pour m'énerver, mais ça reste possible.
Bon, dis-moi, il y a un sujet là qui est pas mal revenu ces derniers temps, la gouvernance dans le monde du tennis. Je sais que tu en as déjà parlé ces derniers jours. J'aimerais bien ton analyse de la situation, mais surtout, toi qui connais parfaitement les rouages, puisque tu as été au Player Council, je crois, pendant quelques années, 10 ans, t'en es sorti aujourd'hui. Mais juste replante un peu le décor parce que c'est important. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu fasses comprendre quel est le poids, l'influence finalement de ces parties, si tu veux, au sein de l'organisation de l'ATP. Est-ce que, parce que là, tu as été dedans, donc tu peux vraiment en témoigner, quel a été votre pouvoir finalement auprès des dirigeants de l'ATP?
Bah, c'est une situation qui est difficile, liée à une structure qui est, allez, on va dire étonnante, on va choisir ce mot-là. On a un gros problème à ce niveau-là, puisqu'on a à peu près, enfin c'est pas à peu près, on a 7 acteurs différents dans la gouvernance du tennis mondial, avec l'ATP, la WTA, l'ITF, et chaque grand chelem qui finalement est indépendant et décide seul. Ce qui fait que ce que j'ai toujours regretté, c'est que tu n'as personne qui est entre guillemets au-dessus et qui va penser au tennis dans son ensemble. Tu vois, on est là par exemple, et ça a été très marquant là pendant cette période-là. Ça va mal parce que bah, y a des tournois qui sont annulés. Enfin bon, voilà, c'est l'économie du tennis, des petits tournois qui va souffrir, les gros tournois aussi, puisqu'on se rend compte que des grands chelems ont besoin d'être joués, etc., pour payer leurs salariés, faire enfin beaucoup de choses. Et donc, c'est le moment où tu te dis, et c'est, enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé, je me suis dit, bah, là, ça devient vraiment frappant que c'est un problème. Parce que là, c'est un peu un sauve-qui-peut général. Chacun essaie de sauver son tournoi, sa date, etc. Et tu n'as personne, si tu veux, au-dessus de tout ça, qui déciderait quel est l'intérêt du tennis. Tu vois, on pourrait facilement tomber d'accord en discutant, de se dire, dans le tennis, les 4 tournois les plus importants sont les grands chelems, faut essayer de les préserver. Enfin, on pourrait, mais tu n'as personne qui est capable de le faire, qui n'a autorité, entre guillemets, sur les autres pour le décider. Et c'est ça qui est je trouve, extrêmement frappant dans notre sport et qui donne, quand tout va bien, chacun essaie de s'arranger, de négocier avec les autres. J'ai eu beaucoup de discussions avec, quand j'étais au Players Council, avec l'ITF notamment, où c'était toujours très compliqué dès qu'on parlait des Jeux Olympiques, de la Coupe Davis, savoir s'il y avait des points, pas des points, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même un sport majeur et tu peux avoir une décision ou un tournoi. Là, par exemple, des tournois du Grand Chelem peuvent décider, bah, moi, je vais organiser le tournoi. Tant pis s'il n'y a pas tous les joueurs. Viens qui veut, finalement, ou viens qui peut, aussi, avec le virus et les contraintes. Et du coup, l'ATP, à côté de ça, va dire, en fonction, peut-être je vous donnerai des points, peut-être je vous en donnerai pas. Tu vois? Et c'est, enfin, voilà, je trouve que ça ne peut pas bien fonctionner dans un sport quand c'est pas clair, quoi. Quand à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui décide que pour l'intérêt du tennis et pour l'intérêt du sport en général, ce sera ça en priorité, ensuite ça, ensuite si on peut ça, etc., etc. Et ouais, que chacun fonctionne de son point de vue.
Toi, tu as pas mal critiqué, d'ailleurs, tu as parlé du bal des faux culs, je crois, pour te paraphraser. Donc, en gros, si tu veux, alors que la période devrait tendre vers plus de solidarité, finalement, chacun a voulu défendre, encore une fois, son petit pré carré et on ne sort pas grandi d'une période enfin, sur laquelle on aurait peut-être pu justement essayer de jouer la carte de l'unité face justement, encore une fois, à ce que l'on vit, enfin, aux difficultés des uns et des autres. Mais quand tu dis tout ça, à la fin, on comprend, okay, qu'il y a donc sept instances, hein, différentes qui sont finalement presque concurrentes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le présenter, mais en tout cas, qui ne travaillent pas ensemble. Toi, aujourd'hui, comment, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des leviers, justement, pour que ça évolue dans le bon sens? Comment tu vois les choses? Comment tu les verrais, finalement? Parce qu'avoir quelqu'un donc, okay, qui supervise l'ensemble, très bien, mais comment, enfin, avec qui? C'est aussi toutes les questions. Est-ce que ce n'est pas, finalement, c'est pour ça que je reviens un petit peu aux joueurs, est-ce que ce ne sont pas les joueurs qui peuvent mettre un gros coup de pied dans la fourmilière?
Bah, à 2000%, et c'est surtout en général aux joueurs que j'en veux à travers ce truc-là, parce qu'ils avaient l'occasion là pendant plusieurs mois de s'organiser. Et finalement, quand je dis que c'était le bal des focus, c'est parce que voilà, on a une date entre guillemets qui se libère, on a en plus avec les Jeux Olympiques une fenêtre qui s'est ouverte, enfin des semaines qui étaient réservées pour les Jeux Olympiques qui sont là. Et quand je dis que c'est le bal des focus, c'était dans le sens où bah voilà, aujourd'hui un grand chelem est plus puissant que les autres tournois. Aujourd'hui, la priorité de Roland-Garros, par exemple, parce que là, c'était Roland, mais ça aurait très bien pu être Wimbledon dans un autre cas. Hein. C'est pour ça que je disais ça. Hein. Et tu vois, ils ont une assurance. Donc, d'un coup, quand tu as une assurance, bon, bah, je ne joue pas. Ouais, c'est plus je veux bien voir la décision s'ils n'ont pas l'assurance. Tu vois, c'est toujours dans la… c'est un peu plus facile. Je dis juste que voilà, il y a les tournois américains qui ont été annulés, qui avaient envie d'y aller. Tu as Roland-Garros qui va être annulé, qui a envie d'y aller. Tu as sur cette date-là déjà l'exhibition de Roger qui est prévue. Tout le monde veut la place. Et en fait, à partir du moment où on fonctionne, comme on a dit, en chacun pour soi, eh ben, c'est le plus fort qui gagne. Ben, le plus fort, c'est un grand chelem. Voilà, c'est réglé. Donc, Roland Garros, de par sa position de force, a dit ben, « moi, je me mets là ouais. ». Mais de la même façon que quand Federer avait décidé de mettre son exhibition, il l'a mise parce qu'il trouvait que c'était des semaines plus faibles et ça a fait mal à des tournois comme Metz et Saint-Pétersbourg.
Donc, le lead, en fait, il doit être pris par les joueurs à un moment, c'est ce que tu dis finalement?
En fait, pour moi, les joueurs, si tu veux, s'ils avaient été à un moment donné capables de comprendre quelque chose de très simple, que la pire des choses qui peut arriver pour les joueurs, c'est qu'on puisse leur parler indépendamment aux uns des autres, qu'on puisse avoir l'accord de Federer ou l'accord de Nadal ou l'accord des joueurs français ou l'accord des joueurs américains dans quelques décisions que ce soit. Parce que finalement, tu prends un tournoi comme Roland-Garros. Roland-Garros va se dire, bon, bah, moi, je dois le jouer. Sa mission, c'est de… C'est ses emplois, c'est ses salariés, c'est sa mission fédérale aussi, si tu veux, à l'année. Elle a besoin des revenus, c'est sa construction de stade, c'est beaucoup de choses. D'accord? Donc, Roland-Garros est dans son rôle, dans le contexte, c'est pour ça que je disais ça, dans le contexte actuel, de dire, attendez, moi, le plus important, c'est que je sauve tout ça. D'accord? Donc, je mets mon tournoi à cette date-là et viens qui veut. Parce que finalement, elle ne peut pas mettre le couteau sous la gorge. La seule chose que peut faire Roland-Garros, c'est dire, moi, je mets mon tournoi à cette date-là. Je donne le prize money et viens qui veut. Et donc, forcément, tu sais comment ça marche. Toi, tes joueurs français, ils se doutent qu'ils vont avoir des joueurs français. Ils ont appelé Rafa avant parce qu'il a quand même gagné 12 fois le tournoi. Et finalement, tu sais très bien qu'un tournoi comme Roland-Garros, s'il y a Nadal, on va dire s'il y a que 50 joueurs qui peuvent venir, imagine avec tes contraintes, mais que tu as 50 Européens, que tu as 4 top 10, dont Nadal, les joueurs français, machin, etc. Quelque part, ça marche. Moi, ce que je dis, c'est que si les joueurs étaient organisés de manière à ce que tu ne puisses pas avoir que quelques joueurs et que tu fonctionnes d'une manière où tu as tous les joueurs ou tu ne les as pas et que tu ne peux pas avoir l'accord des joueurs français, tu ne peux pas avoir l'accord de Nadal, tu ne peux pas avoir… C'est l'accord de quelqu'un d'autre que tu as. Une organisation de joueurs, vraiment de joueurs. Les joueurs, dans ces situations-là, au moins, seraient en position de force et surtout seraient juges de ces trucs-là et pourraient dire… À un tournoi, attends, là, ce que tu as fait en décidant de ton côté, nous, on viendra pas. Et là, c'est terminé. Et obligé, quelque part, du coup, tous les tournois et toutes ces organisations à travailler ensemble et à avoir l'accord des joueurs. Et là où les joueurs sont très faibles pour moi dans leur organisation, c'est que finalement, tout le monde se passe de leur avis. Chacun fait son truc en disant je mets mon tournoi et vient qui veut. Et finalement, l'avis des joueurs n'existe pas là-dedans et n'a jamais existé. C'est ce que j'avais déjà constaté quand j'étais au conseil des joueurs à l'ATP. Je considère que les joueurs ne sont pas représentés pour l'ATP. On a travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. Et à un moment, c'est pour ça que j'ai décidé de partir, parce que j'ai compris, si tu veux, qu'on avait une influence qui resterait extrêmement limitée tant que des personnes, que ce soit une fédération, que ce soit des agents, que ce soit des contrats, que ce soit des marques, pouvaient agir directement sur un joueur et mettre une pression directe sur un joueur.
Ouais. Voilà. Mais quand je reviens donc là, je fais le lien justement parce que tu en as parlé. Donc la FFT qui décide, en passant un peu en force, de changer sa date, de décaler la date de Roland. Toi justement sur la méthode, c'est finalement, tu dis d'un côté, ils ont raison de le faire, enfin, je ne sais pas si tu le dis comme ça, mais d'un autre côté, si tu dois jouer la carte encore une fois de la transparence et de l'unité, c'est tout sauf la méthode à adopter. On est d'accord ?
On est complètement d'accord, mais moi ce qui me paraît toujours important, c'est à un moment les règles. Si tu veux, je dis juste que la situation les autorise à faire ça. Quand je parlais de balle des faux culs, c'est que je sais que s'ils ne le font pas, les autres le font de la même façon. Mais que ceux qui avaient voulu le faire, mais qui se sont fait couper l'herbe sur le pied par Roland, tout d'un coup disent « Ah, ça se fait pas ». Non, non, oui, ça se fait pas, mais vous l'auriez fait aussi. C'est toujours ça que je dis. C'est que je dis qu'à un moment, plutôt que de réfléchir à et de compter sur, je sais pas comment dire, l'état d'esprit, la bonne intelligence, ouais. On peut appeler ça comme on veut, à un moment, j'aime bien quand il y a un truc carré aussi. C'est pour ça que je ne peux pas faire le reproche à la fédération de faire le choix de sauver ses salariés et tout ce qui est en place pour elle.
Donc, tu penses que dans la méthode, est-ce
qu'ils ont… Ah, la méthode, non, mais la méthode est affreuse.
Est-ce qu'ils auraient pu agir autrement? En fait, est-ce qu'en se mettant autour d'une table avec les autres pays organisateurs de Grand Chelem, l'ATP, la WTA et l'ITF, est-ce qu'ils auraient pu obtenir un…
Alors, je pense qu'éventuellement, ils auraient pu. Je pense qu'ils seraient arrivés à ce résultat. Je pense que c'est un risque. Je pense que le risque est grand pour la fédération et que c'est un risque qu'elle n'a pas voulu prendre. Parce qu'à un moment donné, quand tu viens discuter avec les joueurs, imaginons que la fédération vient parler avec le Players Council en disant nous, on veut se mettre là, c'est le plus important. Dans le Players Council, tu as Roger Federer qui a la Rod Laver Cup à cette date-là.
Oui, bien sûr.
Donc tu demandes, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est dans ce genre de situation-là que tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois ? On fait quoi ? On demande à Roger de ne pas prendre part à la discussion parce qu'il n'est pas neutre là-dedans. À partir du moment où tu as un truc qui est bancal, eh ben quand tout va bien, les gens peuvent arriver à fonctionner ensemble. Et encore, parfois, je te l'ai dit, avec notamment l'ITF, pour caler. J'ai vu à chaque fois qu'il y a eu des Jeux Olympiques, pour caler des Jeux Olympiques dans un programme, pour les points par rapport à la Coupe Davis, pour les dates de Coupe Davis. Mais ça a été cauchemardesque, les discussions. Alors, parfois, certains acteurs se retrouvent. Ils ont un intérêt commun et tu vois, ils avancent ensemble. Mais la plupart du temps, ils n'avancent pas ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'arrivée, moi, que ce soit Roland, l'USTA, l'ITF, l'ATP, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que mon sport aille bien, si tu veux, et que tu vois, ça fonctionne bien. Et quand je vois ça, bah, voilà, j'ai réfléchi à toi et je me dis, tant que c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. D'accord. Enfin, en tout cas, de façon
je comprends. Après, il y a un petit conflit d'intérêts quand tu parles de Federer, mais et tu parles à un moment donné, il y a des tournois qui sont plus puissants que d'autres. Et quand tu me dis on doit mettre autour de la table un Federer parce qu'il organise aussi son exhibition, à un moment, le Grand Chelem prend de toute façon le dessus. Et je comprends.
On est d'accord. C'est pour ça que je pense qu'en discutant, ils auraient quand même obtenu le résultat. Après, je dis juste que la décision de Roland Garros, finalement, ça a été de se dire je ne prends pas ce risque-là. Je n'ai même pas envie de prendre ce risque-là de discuter. Je m'y mets. Sachant que
je comprends.
Au moment de la décision, après que tu as Wimbledon aussi qui peut y aller.
Bien sûr, bien sûr. Mais tu as raison. Après, est-ce qu'en termes d'image, est-ce que tu ne mets pas beaucoup de monde à dos, tu vois, en fonctionnant de cette manière? Alors après, toi, ce que tu dis, c'est que tout le monde l'aurait fait.
Moi, ce que je dis, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Tu te mets du monde à dos. Tu te mets du monde à dos. Mais là où je dis, c'est le bal des focus, c'est qu'en fait, tout le monde sait très bien ce qui se passe. Wimbledon sait ce qui se passe. Roger sait ce qui se passe. Les autres grands chelems savent ce qui se passe. Et donc, quand ils disent « Ah, ça ne se fait pas », moi, j'ai un paquet d'exemples de trucs qui ne se font pas, qui ont été faits par les personnes qui disent que ça ne se fait pas, si tu veux. J'ai un superviseur de Wimbledon qui vient me dire qu'il pleut, mais que la pluie ne touche pas le sol et qu'il faut jouer. Ouais. D'accord ? Donc, si tu veux, à un moment, quand ce mec-là me dit « Ah non, ça ne se fait pas », d'accord. Il y a l'Australian Open, il y a des joueurs en qualification qui ont joué dans un nuage de fumée colossal. Ils ont décidé avec leur expert qu'ils jouaient. Ouais. Ça se fait pas. On verra. C'est juste ça que je dis.
Sur, là, on était sur okay, les méthodes finalement qui ont été adoptées. Il y a d'autres problèmes. Et celui, par exemple, du price money, pour en parler, c'est un problème qui revient aussi souvent sur la répartition, la redistribution finalement de ces ressources. Qu'est-ce que tu en penses avec une déclaration de Dominique Thiem qui, lui, n'a pas souhaité participer, hein, je crois.
Je crois que c'est la, pour moi, c'est la même chose. C'est aux joueurs de s'organiser, en fait. À partir du moment où les joueurs ne s'organisent pas et à partir du moment où les joueurs n'ont aucune influence, tu laisses tous ces choix-là dans les mains d'autres personnes. Un directeur de tournoi, il a envie de payer les tout meilleurs une fortune et il a envie de, et les autres joueurs le gênent. Enfin, je t'apprends rien, mais c'est comme ça. Les qualifications le gênent. Alors, c'est ça qui est étonnant. Et c'est ce que je dis toujours. En grand chelem, on parle que du prize money du perdant du premier tour. Jamais le prize money du vainqueur. Mais 40 millions au vainqueur, tout le monde s'en fout. Par contre, le prize money du premier tour, à chaque grand chelem, on t'en parle. Parce que celui du premier tour, c'est un loser. Il a pris ça, il a fait qu'un match, il est nul. On considère qu'il est déjà trop payé. Le mec est dans les 100 meilleurs joueurs du monde.
Quand tu dis, on parle, donc, qui c'est le « on » De qui tu parles là,
à ce moment-là, si je prends, à chaque fois qu'il y a une augmentation du premier tour, prends dans n'importe quel média, n'importe quel journal, n'importe quel truc, on te parle du prize money du premier tour. Le perdant du premier tour prendra 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Avec toujours un exemple. Alors, en général, d'un match de filles, parce qu'elles ont que 2-7 et pas 3-7, où tu as forcément une fille qui va prendre un 6-1, 6-0 au premier tour, qui aura perdu en 50 minutes et qui aura pris 50 000 euros et qui est surpayée. On ne parle jamais
du prize money du vainqueur. On parle de 4 tournois, simplement, qui, à la fin, sont réservés à une élite quand même, les 100 premiers.
100 meilleurs joueurs du monde. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Déjà, le prize money dérange.
Ça sert à financer.
C'est ce qu'on essaye d'expliquer, mais dans l'inconscient collectif, c'est pas ça. Tu as quelqu'un qui est nul, qui a pris 6-1, 6-0 en 50 minutes et qui ne mérite pas d'être payé 50 000 euros. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Tu donnes, regarde, tu prends les exhibs. Il y a un nouveau format d'exhibs qui marche maintenant, c'est tu prends 8 joueurs et tout l'argent va au vainqueur. Zéro pour les autres. Tu les as vus, ces exhibs qui arrivent parfois?
Oui,
il y en a eu à Indian West, il y en a eu en Autriche. Ce que je veux dire, c'est que tu as des tournois avec le système de garantie, avec tout ça, qui fait que déjà tout l'argent va au meilleur. Les sponsors vont automatiquement payer les meilleurs qui gagnent. Les garanties vont être données aux meilleurs joueurs. Mais même dans le prize money, nous joueurs, on a toujours dû limiter la casse parce que des tournois, par exemple, il y en a une fois où c'est Indian Wells qui avait proposé ça et c'était à. Il avait proposé 1 million au vainqueur à Indian Wells. Le prize money du premier tour, c'était 7 500 $. Donc, tu sais, on essaie toujours de voir le ratio entre le perdant du premier tour et le vainqueur. Et on est, par exemple, à l'époque, quand j'en parlais, c'était Gilbert Isern qui était directeur de Roland. Lui, il voulait réduire ce ratio-là, si tu veux le ramener de 1 à 80. Indian Wells, c'était à 1 à 150. Et le président de l'ATP, à ce moment-là, avait dit non, je la refuse, cette augmentation de prize money, parce qu'à un moment, tu ne peux pas continuer de donner tout au meilleur et considérer que les autres qui viennent au bout du monde, tu vois, 7 500 $, ça ne t'a pas payé ni. Enfin, tu vois, entre ton billet, machin, les chambres d'hôtel, enfin, tu es déficitaire à chaque tournée là-bas. Mais ça passe parce que personne n'a envie de payer ses joueurs. Qui a intérêt à veiller sur ces joueurs-là? Les joueurs eux-mêmes. Parce que les joueurs savent que c'est dur d'être dans les sens, savent que les autres ont besoin de s'entraîner, etc. Mais il faut qu'ils s'organisent parce qu'en dehors du cercle des joueurs, dans l'inconscient, un mec qui est centième, c'est un loser. C'est un mec qui va prendre 2-2-2 contre Djokovic au premier tour. C'est un mec qui est mauvais, c'est un mec qui ne gagne rien. Et donc, il n'y a pas de raison de payer plus. Et tu te retrouves avec un sport où tu as 1 milliard de fans, des prize money, machin, mais finalement, le centième mondial qui galère. Et s'il paye un coach, qui gagne zéro.
Je comprends, mais à un moment, c'est pas. Comment dire? Tu parlais de règles. Il faut mettre des règles en place, même sur les tournois, dans l'absolu, pour justement que cette redistribution soit peut-être plus équitable. Mais quand tu parles du prize money global, qui n'est peut-être pas extensible non plus, alors là, tu parles de Larry Ellison qui peut mettre tout l'argent qu'il veut, il en a beaucoup. Mais pour les autres, c'est quand même différent. C'est grâce aux partenaires, aux sponsors et autres parfois. Mais je me dis que de toute façon, tous les meilleurs seront toujours là pour gagner les grands tournois, quel que soit le chèque à la fin. Parce que, donc, on peut quand même réduire le chèque.
Mais on peut considérablement réduire.
Voir à un moment donné rééquilibrer un petit peu sur le parcours la redistribution du prize money.
C'était il y a quelques années, j'avais vu un article sur Roger qui avait fait 6 millions de prize money et 70 millions. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le prize money qui a dans l'année, en dehors, avec ses contrats, en dehors. Donc, ce n'est pas ça. Non, mais ce que je te dis, c'est que tant que tu es à l'ATP, l'ATP ne te représente pas toi en tant que joueur. L'ATP, c'est l'ATP Tour. Donc, s'il y a les joueurs, il y a les tournois. Donc, quand tu es président de l'ATP et que tu prends des décisions pour ton circuit, tu prends en compte les demandes des joueurs et tu prends en compte les demandes des tournois. Donc, les joueurs, eux, ont intérêt à remettre de l'argent à la base. Les tournois, eux, n'en ont aucun et n'en ont pas envie. Donc, finalement, c'est pour ça que le champ d'action, est, si tu veux, est limité à un moment. Et c'est pour ça que je dis que l'ATP ne représente absolument pas les joueurs, mais représente d'une manière générale, et ça serait trop long à expliquer, les tournois.
Tu as dit là, en parlant du Big 3 ou Big 4, enfin on va dire Big 3 ou Big 4, tu as récemment déclaré dans Tennis Break News, il faudrait créer du beau jeu, avancer tout le temps comme arrive à le faire Federer. Pour moi, Federer nous fait perdre beaucoup de temps avec ça. Qu'est-ce que tu entends par tout ça ?
On a un discours très orienté dans notre approche du tennis.
Là, tu parles de la formation ? Plutôt,
oui, je parle de tout, oui, parce que c'est quelque chose que j'entends depuis que j'ai 10 ans, donc c'était là avant que j'arrive ou avant que truc, mais sur déjà les détections, etc., c'était toujours celui qui est capable de prendre la langue, ces trucs, ça sera toujours… Le tennis du futur, je dis toujours, il sera toujours joué par un mec de 2 mètres qui avance et qui frappe fort.
Ouais.
Je n'ai jamais vu dans une détection, tu vois, ça a été… Et j'imagine que dans d'autres sports, ça doit être pareil, mais c'est toujours ça. Et là où je dis ça, c'est que Federer… Avec son génie incroyable sur le terrain, je dis juste qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus efficace qu'autre chose. Et moi, en ayant grandi, j'ai vu des numéros 1 très différents. Et finalement, tu vois, j'en ai vu de toutes les sortes. Moi, quand j'ai vraiment joué, c'était Sampras. Donc là, c'était un peu le cas. C'est j'avance, je serre. Derrière, il y a eu du Ewi. Derrière, il y a même pu avoir un Roddick qui, pour le coup, servait fort mais n'avait pas la volée. Bon, après, il y a eu Federer. Nadal, machin, Djokovic, je dis simplement, ils sont tous très, 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 très différents. Et que pour moi, il n'y a pas de raison de mettre en avant une manière de jouer plus qu'une autre, quand bien même celle de Federer est autrement parfois plus agréable, j'imagine, à regarder pour les gens, parce qu'il a une manière de créer du jeu, une élégance dans le jeu qui est juste irréelle.
Et donc, c'est pour ça. Il est beau, il est
spectaculaire. Non, mais voilà, c'est pour ça. Et je dis, d'accord, il y a ça. Mais le reste gagne aussi. Et que l'impression que j'ai, c'est que dans notre formation, si on se limite à vouloir former des Roger, bah si on avait un Nadal à côté, un Djoko, un machin, et qu'on essayait de le faire jouer comme lui, et ben voilà.
Est-ce que tu n'as pas l'impression, enfin, je ne sais pas si tu as vu The Last Dance, hein, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a Federer et maintenant tout sera toujours l'héritage un petit peu de Federer qui a donné l'impulsion comme Jordan aurait pu le faire, tu vois, en NBA dans le basket.
Et non, mais c'est pour ça, ça n'a rien avec Federer, parce que Federer, c'est magique pour notre sport. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est même pas dans notre sport, c'est le sportif le plus aimé de Intersport, tu vois le ouais. Ça donc dépasse
c'est,
ça.
C'est tu vois sur la question de la formation, c'est ce que je voulais comprendre.
Tu vois, mais moi je dis juste quand on est dans de la formation et quand on a, si on a un Novak, on en fait quoi?
Ouais, non mais en gros ce que tu dis c'est qu'il y a plein de parcours différents, ils sont tous singuliers, c'est très dur. Et je sais que toi dans ton parcours justement, tu as toujours été un peu raccroché au wagon tant bien que mal, et c'est ce que tu dis, mais à la fin sur le système français, pour en faire vraiment une petite parenthèse, tu as quand même été gardé, même il y a toujours des gens qui ont cru en toi et qui ont réussi à convaincre pour finalement aussi te permettre d'avoir eu la carrière que tu as eue, mine de rien.
Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai eu la chance quand même à chaque fois d'avoir des personnes qui ont eu confiance ou qui se sont dit au moins il faut voir. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aborderai encore une fois plus tard ou d'une autre manière quand j'aurai plus de temps. Mais c'est juste ça. Quand je dis que Federer nous a fait perdre 20 ans, c'est pas parce que Federer nous a fait gagner. Je peux même pas expliquer tout ce qu'il nous a fait gagner d'un autre côté. Je parle juste vraiment de nous, dans notre approche du tennis. Finalement, d'avoir un joueur qui colle exactement au discours qu'on tient à l'image, à l'idée du beau jeu, de trucs de facilité, etc., et qui arrive à allier ça avec une efficacité, donc son palmarès et ce qu'il est, je dis juste que du coup, on a tendance à voir que lui. On a tendance à voir que lui et à pas voir les autres. Et c'est pour ça que je disais, dans un premier temps, les autres, ça nous emmerde. Parce que putain, Rafa, c'est vachement moins beau que Rog, mais il le bat, donc ça nous emmerde. Et après, il y a des Novak et des machins. Et oui, ce sont pas c'est pas l'élégance de Roger, mais qui a l'élégance de Roger? Tu vois, à part éventuellement de temps en temps un Dimitrov quand tu vois les planètes sont alignées, mais tu vois, c'est une élégance sur un terrain qu'on ne retrouvera plus jamais. Et ce qui m'emmerde un petit peu, si tu veux, c'est qu'elle masque beaucoup d'autres choses hyper intéressantes qui se passent aussi. Tu vois, si tu limites le tennis à Federer, à un moment, tu rates beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est dans ce sens-là que je dis que ça me fait perdre un temps, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment, il y a trop de ça et que les gens sont plus que sur le record de Grand Chelem, pourquoi ? Enfin, tu vois, alors qu'il y a beaucoup plus important que ça, à mon avis.
Est-ce que tu as entendu parler de UTS, Ultimate Tennis Showdown ?
C'est non.
Quelque chose ? Pas du tout.
Tu sais, je regarde rien, moi, donc je suis pas venu pour
ça. Ce circuit, en fait, qui devrait voir le jour prochainement, orchestré par Patrick Mouratoglou.
Oui, j'ai entendu parler qu'il voulait faire un truc.
Donc tu n'as pas trop, donc t'as pas trop les tenants, les aboutissants, tu les connais pas trop. Donc je sais, enfin voilà, ça serait un circuit en fait pour pendant la période là de déconfinement, de pouvoir reprendre et faire jouer les joueurs sur des formats de compétition un peu modernes, parce qu'on essaie de moderniser la pratique avec notamment, tu sais, le coaching, et tout ce que, un tennis un peu plus spectacle, j'ai envie de te dire.
Et tout ce que je déteste.
C'est exactement pour ça que, c'est pour ça que je te.
Pour ça que tu m'en parles.
Très rapidement, parfois tu prends un peu de recul et tu dis, est-ce que je dis pas ça parce que j'ai 35 ans et que je suis un peu old school ? Parce qu'à un moment.
Pas du tout. Alors pour le coaching, vraiment pour le coup, pour le coaching, pour moi, c'est un truc qui change complètement le jeu. Mais complètement. C'est-à-dire, pour moi, je considère qu'une des qualités très importantes d'un joueur de tennis, c'est de trouver ses solutions sur un terrain. À partir du moment où elles viennent de l'extérieur, déjà, tu rentres dans un truc qui est très différent. Et c'est vraiment une limite qui est là, qui est liée au sport, si tu veux. Et moi, il y en a beaucoup à l'inverse qui disent au school, ils disent, mais t'es con, parce que si tu t'arrêtes et que t'es coach et que tu vois, il y a peut-être plein de mecs qui vont vouloir te demander de venir et tout. Je dis, mais non, tu vois, pour moi, ça fait partie. Enfin, c'est vraiment une philosophie de jeu où quand tu rentres sur le terrain, t'es seul et tu te démerdes.
Mais je te pique un peu. C'est comme ça. Parce que moi, je suis plutôt d'accord avec toi, mais si je m'amuse, je fais un peu le poil à gratter. Est-ce que tu prêches pas un peu pour ta paroisse ? Parce que toi, on sait très bien, c'est la science du jeu, tu es un fin tacticien. Et donc, tu sais très bien que tu vas un peu grignoter le cerveau de tes adversaires, les faire dérailler et les contrer. Et finalement, est-ce que, quand on dit ça, et pourtant, je te rejoins, je t'assure que je suis d'accord avec toi, pour moi, le tennis, c'était seul sur
le coup. Pour le coup, non, parce que c'est ce que je te dis en termes de timing. Je veux dire, si ça arrivait dans 2 ans et que j'ai fini de jouer et que je joue plus et que je passe de l'autre côté, il y a peut-être beaucoup de joueurs qui voudraient me prendre comme coach pour savoir justement ce que je pourrais leur amener sur le terrain. Ouais. Donc, mais non, je pense que ça fait. Enfin, c'est vraiment l'idée que j'ai quand tu es joueur de tennis. C'est vraiment ça, quoi. C'est tu te débrouilles.
Le coach, il est là pour finalement outiller, armer. Et après,
pour moi, le coach, il est là. On prépare le match. Justement, on trouve les solutions. Tu t'entraînes à trouver des solutions, à comprendre, tu vois, si un joueur ce qu'il a. Mais le joueur, à aucun moment, pour moi, dans un match de tennis, c'est un simple exécutant. Le seul cas, à la limite, où ça pourrait être le cas, et on voit des écarts, c'est en Coupe Davis. Dès que tu as un coach sur le banc, tu sais, tous les deux jeux, ça peut aider certains joueurs, en gêner d'autres, etc. Et certains joueurs sont plus performants dans ce contexte, d'autres le sont moins, parce que, différent.
Dans cette approche, finalement, il y a de vouloir moderniser, il y a cette volonté de rajeunir, si j'ai bien compris, le public. Toi, t'en penses quoi de tout ça ?
Moi, je pense que c'est une énorme erreur. D'accord. Moi, c'est une erreur. Et si tu dis de prêcher pour sa paroisse, je pourrais dire que ceux qui veulent le mettre en place prêchent surtout pour leur paroisse. Ah. Pour aller sur le terrain, pour coacher, pour machin, pour etc. Mais non, mais pour le coup, c'est un sujet sensible. Certains joueurs estiment que ils payent leur coach, que leur coach devrait aussi pouvoir les aider pendant les matchs, etc., etc. Moi, je dis juste simplement, c'est pas un fait anodin. C'est pas un fait anodin. C'est vraiment quelque chose qui change le jeu, de pouvoir avoir une aide extérieure sur un court. Donc, tu changes quand même le sport. Voilà.
Ouais, bien sûr.
C'est pas juste, on fait ça pour parce que t'as l'image de Tony Nadal qui est en train de coacher Rafa à Roland, elle va être fabuleuse. Ok, on a compris. C'est du média, ok. Mais il se passe quelque chose derrière ça, si tu veux. Et à la limite, quand j'étais pour, à la limite, quand tu sais, tu as un peu le coaching sauvage sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il est là, vas-y, dis un truc à la limite, rapide. Pourquoi pas, à la limite ? Tu vois ? Mais vraiment, le vrai coaching, du machin, mais quand tu fais ça, mais tu fais truc et je t'apporte. J'aime pas.
Mais c'est justement un des arguments de ceux qui veulent le coaching. Justement, quand ils parlent de coaching sauvage, c'est qu'ils trouvent que c'est assez hypocrite, d'une certaine manière, de dire qu'il n'y a pas de coaching alors qu'il existe déjà.
Complètement, mais c'est pas la même chose de coacher de ton gradin, tu vois, et de dire un truc rapide, putain, il sent rien. Enfin, bon, bref, que de faire une stratégie jeu par jeu sur un terrain 7 par 7, tu vois. C'est, okay. Enfin, voilà, il y a de la constance. Enfin, il y a un moment de travail de constance, je pense.
Moderniser, mais doucement quand même. En tout cas, pas pour aller sur du show, du spectacle.
Moi, je suis plus pour éduquer les fans que pour le moderniser, si tu veux.
D'accord.
Enfin, tu vois, c'est ce que je dis toujours. Un Wimbledon qui est dans la plus pure tradition, les gens attendent 4 jours sous la pluie pour rentrer dans le stade. Et quand il pleut, ils mettent le parapluie, ils restent collés au gradin parce qu'ils sont habitués à ça. Mais là, on est un peu dans le truc où… Enfin, voilà, moi, j'ai vu plein de trucs qui m'ont gêné. Jour au lendemain, j'ai une caméra dans les vestiaires. Il y a un moment, j'ai plus dans les toilettes où je me sens bien, si tu veux. Mais c'est bon, là, il n'y a personne. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Il y a plein de choses qui ont été mises en place, soi-disant pour vendre le sport, pour machin. Je ne suis pas convaincu.
Ouais.
J'aimais bien aussi le côté mythique du vestiaire où tu te rappelles la première fois que tu es entré dans le vestiaire du central.
Tout à fait.
Tu t'en rappelles. Tu avais envie, tu voulais voir, tu voulais le découvrir.
Oui.
Maintenant, tout le monde l'a vu. Chacun son truc.
La reprise du tennis, on va conclure là-dessus. Tu es optimiste là quant à la reprise et tu la vois quand? Est-ce que tu crois que c'est l'US Open qui va conditionner un petit peu le reste de la saison ou pas du tout?
Bah, je crois que chacun veut reprendre quand il peut. Donc, encore une fois, l'US Open doit être dans son rôle d'essayer de jouer le tournoi. Je connais pas le. Enfin, voilà, on sait que Wimbledon était à l'aise de ne pas le jouer. On sait que Roland-Garros n'est pas à l'aise de ne pas le jouer. Je ne connais pas les finances des tournois de l'US Open et à quel point ils ont besoin de jouer le tournoi et donc dans quelles conditions non plus. Mais enfin, nous, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Tu as un tournoi, tu joues.
Ouais, peu importe que ce soit vois, ou en…
Bah, oui, il y a un tournoi, tu joues. Puis, condition dégradée. Enfin, c'est quoi? C'est le huis clos. Mais bon, il y a des tournois. Quand tu joues sur le court 4 à Winston-Salem, tu joues à huis clos, hein.
Ouais,
non, mais tu vois, quelque part. Donc,
les gens ont l'impression que les cours sont pleins tout le temps, partout, mais ce n'est pas le cas et pas sur tous les premiers.
En grand chelem, oui, c'est plein. En grand chelem, ça rentre, c'est plein.
Tu as aussi l'habitude de jouer quand il y a moins de
monde. Nous, on a aussi l'habitude de jouer quand il y a moins de monde, oui. Il n'y a pas de souci. Puis bon, et on a fait le chemin. Quand tu allais jouer en futur, trois futurs en Égypte.
Le couteau entre les dents,
tu fais ce qui doit être fait.
Ouais, tu fais ce qui doit être fait.
Ah, pour moi, c'est comme ça, quoi. Tu dois jouer. Ce n'est pas ce qui est le plus plaisant, mais malheureusement, tu joues.
D'accord. Toi, aujourd'hui, tu as 35 ans, une carrière bien garnie. Tu as été 6e, tu as fait demi au Masters 2008. Tu as encore des objectifs? Tu as encore, je sais pas, tu as encore faim? Tu as encore envie d'y retourner? Et si oui, quels sont-ils finalement aujourd'hui tes objectifs?
Ouais, j'en ai plein. Et le principal, l'objectif principal, c'est d'être bien sur le terrain.
D'être heureux.
D'être sur le terrain.
Parce que je regardais…
De jouer des matchs en étant bien. Ouais. En étant bien avec moi-même, en étant bien sur le terrain, en étant à l'aise avec ce que je fais, c'est le plus important.
Je crois que depuis 2006, chaque année, tu bats au moins un top 10, malgré tout. Chaque année. Mm. Donc, ça va continuer, quoi. C'est ça? Ça ne s'arrêtera pas?
Bah, j'ai dû cocher la case déjà cette année à Marseille.
Ouais,
je m'en sors bien.
Je sais. Tout à fait. Exactement. Tu dois jouer encore longtemps?
J'ai fait trop de matchs. Non, mais je pense que c'est ce qui m'a manqué le plus et c'est ce que j'ai envie de trouver. Tout le monde dit toujours si j'avais fait ci, ça, machin, ou qu'est-ce qui m'a manqué sur un terrain. Ce qui m'a manqué, c'est d'être encore plus à l'aise avec ce que je faisais et d'être bien sur le terrain. Parce que quand je le suis, c'est là où je suis très fort. Et sinon, je suis un joueur comme les autres.
Gilles, je vais te libérer, te remercier vivement pour ces échanges sans langue de bois. C'était hyper riche, hyper intéressant. Voilà, c'était le premier Deep Talk. N'hésitez pas à commenter sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci mille fois, Gilles.
Pas de souci. À bientôt, Arnaud.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.